Il est 6h44 en temps universel. Tout de suite, c'est la revue de presse africaine. Avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la bataille de l'or au Mali.
Le buffle et l'hippopotame, s'exclame Libération à Paris. Ce sont les logos des sociétés minières qui exploitent respectivement l'or de Loulo et de Gounkoto dans l'ouest du Mali. Cela pourrait aussi être le titre d'un conte retraçant le duel qui oppose le groupe Barrick Gold, géant minier canadien, et le régime militaire de Bamako. L'issue de la bataille reste incertaine, mais après un an d'affrontement, la junte a fermé avant-hier mardi les bureaux à Bamako de Barrick Gold, deuxième producteur d'or au niveau mondial. C'est le dernier épisode d'un bras de fer auquel se livrent l'industriel et l'État malien, souligne Le Monde Afrique. Le géant minier et Bamako sont en conflit depuis des mois. À propos de ce complexe de Loulo-Gounkoto, l'un des plus importants gisements aurifères au monde, détenu à 80% par le groupe minier et à 20% par le Mali. Au nom de la souveraineté économique du pays, le Mali a réformé son code minier et réclame des centaines de millions de dollars d'arriérés d'impôts. À Barrick Gold.
Le désaccord entre les deux parties remonte en fait à 2023, précise pour sa part Malijet à Bamako.
Oui, après l'adoption par le Mali de ce nouveau code minier donc, qui renforce les prérogatives de l'État dans le secteur aurifère, notamment en augmentant la part de participation publique. Barrick Gold avait contesté certaines modalités d'application du nouveau cadre législatif. Malgré plusieurs cycles de négociations, le différend s'est accentué avec la saisie, pointe Malijet en janvier dernier, de près de 3 tonnes d'or par les autorités maliennes, représentant une valeur d'environ 245 millions de dollars que le gouvernement estime liée à des obligations fiscales non respectées. Le différend entre Barrick Gold et le Mali, précise encore Malijet, s'inscrit dans un contexte régional marqué par une volonté croissante des États de récupérer davantage de revenus issus de l'exploitation minière dans un mouvement souvent qualifié de nationalisme des ressources.
En effet, développe Afrique.com, au-delà du différend fiscal, l'affaire cristallise une dynamique plus large.
Oui, celle d'un Mali déterminé donc à reprendre la main sur ses ressources naturelles. Depuis les coups d'État de 2020 et 2021, la junte au pouvoir affiche une volonté affirmée de restaurer la souveraineté économique, notamment dans le secteur extractif. L'or représente environ un quart du budget national et constitue la première source d'exportation du pays. Dans ce contexte, ce bras de fer avec Barrick Gold illustre une stratégie plus globale de renégociation des termes de la présence étrangère dans l'industrie minière, souvent perçue comme inéquitable par les autorités maliennes. Déjà, résultat important, souligne Malijet, conséquence de la réforme de ce code minier. L'année dernière, l'État malien a enregistré environ 1,4 milliard de dollars de recettes provenant des compagnies exploitant l'or, soit une hausse vertigineuse de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Un contraste saisissant qui souligne, pointe Malijet, l'efficacité du nouveau cadre législatif mis en place par les autorités de transition.
Reste que Barrick Gold n'entend pas se laisser faire, constate Sahel Tribune à Bamako.
La compagnie canadienne rappelle son rôle de partenaire engagé du peuple malien, salaire maintenu, chaîne d'approvisionnement assurée, soutien aux PME locales. L'entreprise met en avant son ancrage territorial, mais la patience a des limites. Barrick Gold prévient que si le dialogue reste stérile, l'entreprise poursuivra la voie de l'arbitrage international. Traduction, les juridictions économiques internationales pourraient bientôt être saisies avec des conséquences financières et diplomatiques incalculables pour le Mali. Alors, poursuit Sahel Tribune, à l'heure où l'Afrique s'interroge sur sa souveraineté économique, ce conflit entre l'État malien et Barrick Gold dépasse le simple cadre d'un litige fiscal. Il questionne le modèle même du partenariat public-privé dans les pays riches en ressources naturelles. Faut-il encore croire au win-win, gagnant-gagnant entre État et multinationales? Ou bien assiste-t-on à la fin d'un cycle, celui où les contrats miniers se signaient à huis clos, loin des projecteurs citoyens? Barrick Gold, de son côté, exhorte les autorités à agir dans l'intérêt du peuple malien. À défaut, conclut Sahel Tribune, c'est tout un pan de l'économie nationale malienne, plus de 8% du produit intérieur brut, qui pourrait bien s'effondrer comme un château de cartes.
Merci Frédéric Couteau. Dans une demi-heure, la revue de presse internationale à la une, la France est-elle en voie de mexicanisation?
Oui, les attaques de ces derniers jours autour des prisons sont-elles coordonnées par les narcotrafiquants? Eh bien, pour certains journaux, nous le verrons, cela ne fait aucun doute.
Et nous le verrons à 9h15 tout à l'heure. À tout à l'heure, Frédéric.
RFI, toute l'actualité Andréane Mélard.
Et sur ces attaques visant des prisons en France, le procureur antiterroriste a annoncé ce matin chez nos confrères de France Info qu'aucune piste n'est privilégiée dans l'enquête qui a été ouverte. La défense civile palestinienne annonce ce mercredi la mort d'au moins 16 personnes après une frappe aérienne israélienne sur des tentes abritant des déplacés à Gaza. Hier, l'armée israélienne a annoncé avoir transformé 30% de l'enclave palestinienne en zone tampon. En Ukraine, des frappes russes ont fait 3 morts et au moins 30 blessés cette nuit à Dnipro, dans l'est du pays. Et c'est pour parler, entre autres, de la guerre en Ukraine que le secrétaire d'État américain Marco Rubio est à Paris ce jeudi. Sa première visite officielle en France, accompagnée de l'émissaire américain spécial pour le Moyen-Orient. Ils doivent s'entretenir avec le président français, notamment. Autre visite aujourd'hui, celle de Giorgia Meloni aux États-Unis. La chef conservatrice du gouvernement italien doit s'entretenir avec Donald Trump, le président américain. Et les Européens comptent sur cette visite pour débloquer le dialogue entre Washington et Bruxelles sur le sujet des droits de douane. C'était hier, mercredi, sa première visite en tant que médiateur de l'Union africaine. Fornia Simbe, président du Togo, était à Kinshasa, où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Analyse ce matin de la situation sur le terrain, mais aussi des chances de réussite du nouveau médiateur avec notre invité Pierre Boisselet, responsable des recherches sur les violences en RDC pour l'Institut Ebouteli. Entretien avec Christophe Boisbouvier.
Pierre Boisselet, bonjour.
Bonjour.
L'attaque des quartiers ouest de Goma le week-end dernier, est-ce que c'est le signe que le M23 ne contrôle pas la totalité du territoire qu'il a conquis ces 3 derniers mois dans l'est du Congo ?
Oui, en tout cas, c'est certainement le signe que le M23 n'est pas totalement en mesure d'assurer la paix et la sécurité dans le territoire sous son contrôle. Alors, les événements de ce week-end dernier sont probablement les plus spectaculaires qui ont eu lieu, au moins depuis que le M23 a pris les villes de Goma et Bukavu depuis le début de l'année. Mais il y en a eu d'autres. On pense notamment aux explosions qui ont eu lieu à Bukavu, peu après la conquête de cette ville, en marge d'un meeting de Corneille Nanga. Il y a aussi eu ces derniers jours des incursions de miliciens Wazalendo aux abords de la localité de Kavumu, au sud Kivu, où l'on trouve le principal aéroport de cette province du sud Kivu. Donc on voit qu'à plusieurs endroits et à plusieurs moments, le M23 a montré que son contrôle de la situation n'était pas total.
Il y a un mois, le M23 s'est emparé aussi de la ville de Walikale, sur la route de Kisangani. Et puis quelques jours plus tard, le mouvement rebelle s'est retiré de cette position importante. Est-ce un retrait stratégique ou politique ?
Alors, c'est probablement un peu des deux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté que le M23 avait beaucoup de difficultés à maintenir ses lignes logistiques jusqu'à cette localité de Walikale qu'il venait de conquérir. Notamment, la route entre Massissi et Walikale n'était pas du tout sécurisée. Et leur convoi était à la merci d'attaques, de harcèlement. Mais par ailleurs, ce retrait est aussi intervenu au moment où les discussions étaient relancées par le Qatar. Une des conséquences de la prise de Walikale, ça a été la fermeture de la mine d'Alphamine, qui est contrôlée par des capitaux américains. Et donc, voilà, le fait qu'il se soit retiré, ça a permis l'annonce au moins de la reprise de la production dans cette mine. Donc, on peut imaginer qu'il y a pu aussi avoir des pressions politiques qui ont abouti à ce retrait.
Et le retrait du M23 de Walikale a coïncidé avec la visite d'un émissaire américain à Kigali.
Tout à fait, Monsieur Boulos, qui d'ailleurs a lui-même annoncé la reprise des activités d'Alphamine dont je parlais à l'instant. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y a eu un message de passé à cette occasion.
Un deal entre messieurs Trump et Kagame ?
Alors là, je ne saurais m'avancer jusque-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des discussions, alors en réalité surtout entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain, sur l'accès aux immenses ressources minérales congolaises. Alors est-ce qu'il y a eu d'autres négociations parallèles ? Ça, je ne le sais pas.
Du côté des médiations internationales, le Qatar a réussi un joli coup, c'était le 18 mars dernier, quand il a réuni les présidents Tshisekedi et Kagame à Doha. Mais est-ce que cela n'a pas été un succès sans lendemain ?
Alors, c'est peut-être un tout petit peu tôt pour l'affirmer, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément embrayé avec un processus très convaincant, je dirais. On sait que depuis, il y a eu des délégations du M23 et du gouvernement congolais qui devaient se rencontrer à Doha pour poursuivre sur la lancée du sommet. Mais à ce stade, il y a vraiment peu d'écho. Il semblerait qu'il y ait assez peu d'avancées dans ces discussions qui ont donc suivi le sommet.
Dernière surprise, c'était le week-end dernier. L'Union africaine a désigné le président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur à la place de l'angolais João Lourenço. Est-ce que João Lourenço se heurtait à la méfiance de Paul Kagame, ce qui n'est peut-être pas le cas du nouveau médiateur togolais?
Alors, ce qui est certain, c'est que le Togo entretient de très bonnes relations avec le Rwanda, ce qui était peut-être un peu moins le cas de João Lourenço. Donc ça peut être un point positif.
Faure Gnassingbé s'entend bien aussi avec Félix Tshisekedi.
Oui, il semblerait. Et donc l'arrivée fracassante du Qatar dans cette médiation n'avait pas forcément été anticipée par l'Union africaine et l'a quelque peu marginalisée. Donc probablement qu'il s'agit aussi, au moins en partie, de replacer l'Union africaine dans cette médiation.
En allant chercher un pays en Afrique de l'Ouest, très loin du théâtre des opérations.
Oui, notamment. Alors c'est vrai que, contrairement à João Lourenço d'ailleurs, le président togolais ne siège dans aucune de ces deux organisations que sont la SADC et l'EAC, dont on connaît les tensions, et donc ça pourrait lui donner un avantage en termes de neutralité. Mais peut-être que la difficulté, par contre, ça sera pour le président togolais d'arriver à convaincre les deux présidents d'arriver à ce compromis. On ne voit pas forcément de quels moyens de pression ils disposent pour leur tordre le bras et y arriver.
Pierre Boisselet, je vous remercie.
Pierre Boisselet, responsable des recherches sur les violences en République démocratique du Congo pour l'Institut Ebouteli, il répondait à Christophe Boisbouvier. Maman, vous nous dites ce matin qu'au Gondwana, quand tout change, on s'accroche aux valeurs traditionnelles du dialogue.
Oui, dans chaque société, il y a des mots, des expressions qui, depuis des années, voire des décennies, des siècles, sont répétées à longueur d'interviews, discours, publications, conversations, jusqu'à irriguer le langage quotidien. La très très démocratique République ne fait pas exception parce qu'on y a une expression qu'on a toujours entendue par ici, depuis toujours, dans la bouche des autorités de ce pays. Soyons fiers des valeurs de dialogue et de solidarité du Gondwana. Voilà, partout où tu dirigeras ta télécommande, mon ami, dès qu'apparaît un ministre, un honorable, un notable, en tout cas quelqu'un en haut, tu peux parier qu'à un moment donné, tu l'entendras rappeler les valeurs de dialogue et de solidarité du Gondwana. Tu peux pas y échapper, hein, mon cher ami. Partout, tes oreilles croiseront ces mots, valeurs, dialogue, solidarité. Ils ont tôt fait de faire le tour des conversations entre Gondwanais, génération après génération, pour entrer dans le patrimoine national, à côté de l'hymne national, le drapeau et la devise du Gondwana. Loyauté, allégeance, prison. Cette expression est conjuguée à tous les temps, toutes les personnes, toutes les sauces. Oui, nous sommes un peuple de dialogue et de solidarité. Il n'y aura jamais la guerre chez nous. Nous aimons le dialogue. Voilà, c'est avec cette belle antienne que les Gondwanais se flagellent quand le navire a l'air de tanguer, quand les nuages semblent s'amonceler au-dessus de notre beau pays, si fier de ses valeurs de dialogue et de solidarité. Ne pense pas, mon ami, que nous devons cette phrase à une agence de communication payée très cher. Non, détrompe-toi. Elle a été concoctée par le meilleur communicant du Gondwana, celui qui connaît les Gondwanais comme sa poche, son excellence président fondateur. Ben oui, après avoir assis son pouvoir, rempli ses poches et rassasié ses proches, pendant que le Gondwanais lambda serrait sa ceinture d'intro supplémentaire, arrasée par la hausse des prix des denrées de première nécessité et la baisse fatale de son pouvoir d'achat, eh ben président fondateur a levé la tête de son assiette, intrigué par le grondement qui montait des bas-fonds de Gondwana City, notre belle capitale. C'est là qu'il a commencé à marteler son credo. Soyons fiers de nos traditionnelles valeurs de dialogue et patati et patata. Dès que quelqu'un haussait un peu la voix pour crier qu'il avait faim ou bien qu'il voulait un peu de liberté, eh bien, président fondateur envoyait sergent s'en fout la mort des autres pour lui faire une explication de texte à coup de rangers sur les traditionnelles valeurs de dialogue et de solidarité qui régissent notre beau pays. Des opposants qui veulent s'opposer, mais les valeurs, n'oubliez pas les valeurs. Des rebelles en voie de rébellion, l'armée gondwanaise se charge immédiatement de leur rappeler le dialogue et la solidarité. Voilà, le Gondwana est un pays de dialogue. Ne l'oubliez jamais, hein. À lundi.
Et oui, à lundi, maman. Demain, c'est Charlotte Tamac que vous allez retrouver à cette heure-ci. RFI, restez avec nous. Dans deux minutes, le journal.
Ce samedi sur RFI, Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
La Côte d'Ivoire est la première économie de la zone UEMOA en forte croissance, mais dépendante aussi de la conjoncture internationale. Sa ministre de l'économie, Niale Kaba, est notre invitée alors que le pays se prépare à une échéance électorale majeure.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème « L'entreprise, moteur d'une croissance durable ». Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique « Événements », le 29 avril prochain, à Paris, en partenariat avec RFI.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Alors que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, est à Washington aujourd'hui pour parler commerce, nous serons en reportage en Italie auprès des viticulteurs qui s'inquiètent. Malgré la suspension des droits de douane par Donald Trump, ils constatent que les commandes des clients américains sont déjà en baisse.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
Inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité en 2023 en tant qu'ensemble de rituels de gouvernance, le Ngwon fait partie de l'identité culturelle des Bamoun du Cameroun. Que représente-t-il? Son instance démocratique, ses modes d'expression, nous en parlons ce week-end.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.